Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez crucial, le droit du travail marocain, qui date, on peut le dire, d'une autre époque.
Oui, l'ère industrielle principalement.
Exactement. Et là, il se confronte de plein fouet à l'intelligence artificielle, au télétravail qui explose, aux plateformes numériques. C'est une vraie révolution, mais silencieuse. La grande question, c'est comment on fait ? Comment adapter nos lois pour que la technologie nous serve sans laisser les travailleurs sur le carreau ?
C'est ça.
Pour en discuter, on s'appuie sur une analyse et des propositions assez concrètes publiées par l'ODJ Média, un média en ligne marocain qui suit ça de près.
Oui, et l'enjeu est vraiment de taille. Notre but ici, c'est d'explorer un peu les tensions, les points de friction et surtout les pistes qui sont envisagées pour encadrer tout ça.
Pour que la techno reste un outil, quoi.
Exactement.
Un outil au service de l'humain.
Et pas l'inverse.
Il faut préserver la dignité, les droits des travailleurs face à ces systèmes qui deviennent de plus en plus autonomes.
Alors, allons-y. Le cœur du problème, si je comprends bien, c'est ce décalage énorme. On a un code du travail, il date du début des années 2000.
C'est ça, 2003-2004.
Voilà. Bien avant que les algorithmes décident qui on embauche, que notre évaluation soit faite par une machine ou que les micro-tâches existent vraiment comme aujourd'hui.
Tout à fait. Un autre monde.
Et ce vide juridique, ça crée une zone grise, non ? Où l'employeur peut un peu se défiler en disant désolé, c'est pas moi, c'est l'algorithme.
C'est exactement ça. C'est ce vide que les propositions essaient de combler. Une idée forte, c'est cette fameuse clause de responsabilité sociale algorithmique.
D'accord. Ça veut dire quoi, concrètement ?
Ça repose sur trois piliers, si on veut. D'abord, la traçabilité. Pouvoir comprendre comment l'IA a pris sa décision.
Ensuite, une supervision humaine.
Mais attention, une vraie supervision.
Ah oui, pas juste un clic de validation.
Voilà. Surtout pour les décisions négatives. Un licenciement, une non-promotion. Et troisième point, crucial, désigner clairement qui est responsable. L'entreprise, le fournisseur. Fini de se cacher derrière la machine.
Mais cette supervision humaine, justement. Les critiques soulevées dans le document PAND pointent le risque que ça devienne juste une formalité, non ? Une case à cocher sans vraie analyse derrière.
C'est une objection très juste, et c'est le nœud du problème. La proposition parle de supervision effective. Ça veut dire que l'humain doit avoir la capacité réelle de comprendre, de contester, voire d'annuler la décision de l'algo. Ce qui suppose de la formation.
Et de la transparence. D'où les autres idées. Un droit renforcé à la formation continue sur l'IA pour tout le monde. Et ce droit à la transparence algorithmique. Il faut que les salariés puissent comprendre les critères utilisés par ces outils.
Oui, mais la transparence. J'imagine que ça peut être hyper technique, non ? Savoir qu'il y a tel ou tel critère dans l'algo, est-ce que ça redonne vraiment du pouvoir si on n'y comprend rien ?
C'est un très bon point. La transparence technique seule, ça ne suffit pas. Il faut ce qu'on appelle l'explicabilité. C'est-à-dire pouvoir traduire le fonctionnement de l'algo en langage clair pour un non-expert.
D'accord.
Et les critiques soulignent aussi d'autres difficultés. Comment on trace des algorithmes souvent boîte noire, parfois développés à l'étranger ? Et ce droit à la formation, est-ce qu'il ne risque pas d'être un peu illusoire pour certains ? Et pendant qu'on débat de comment adapter le cadre existant, il y a des réalités nouvelles qui explosent. Je pense aux micro-jobs.
Ah oui, le travail à la tâche numérique.
C'est ça, ces petites tâches répétitives, payées une misère, souvent via des plateformes étrangères. On parle de milliers de personnes au Maroc sans statut, sans aucune protection sociale.
C'est un angle mort terrible. Les propositions essaient d'y répondre en demandant une formalisation, même minimale. Un contrat type, une paie basée sur le SMIC horaire, et surtout obliger ces plateformes, même étrangères, à s'immatriculer au Maroc.
Et à côté de ça, il y a le travailleur augmenté.
Oui, celui dont le métier est transformé par l'IA. Faut-il un statut spécial ? C'est une vraie question. Le risque, c'est la précarisation, si ce n'est pas bien encadré, un contournement du salariat classique.
C'est complexe. D'autant que l'IA, elle n'est plus seulement un outil d'aide. On voit des exemples à l'étranger. Un clone numérique d'un politique utilisé pour des négociations simulées.
Oui, Keir Starmer.
Ou même cet agent IA Claude 4 qui travaille 7 heures d'affilée sans pauvre. Ça pose directement la question de la concurrence avec l'emploi humain, non ?
Absolument. Et ça nous ramène à des questions fondamentales. La responsabilité, mais aussi la définition même du travail. Si une IA fait une erreur qui coûte cher, qui paye ? L'entreprise ? Le développeur ? L'IA elle-même ? On touche à des choses profondes.
Donc en résumé, le Maroc est vraiment à la croisée des chemins. Comment on fait pour intégrer l'IA ?
pour ne pas rater le coche économique, mais sans sacrifier l'équité, les droits des travailleurs.
C'est ça.
Il faut sortir de la pure technique, en fait, et remettre ça dans le débat politique, social.
Tout à fait. Et ça ouvre sur une réflexion encore plus large, au-delà des articles de loi. Finalement, la question qu'on doit tous se poser, c'est quelle place on veut vraiment laisser à l'humain dans le travail de demain ? Face à ces machines de plus en plus capables, quelles sont les limites qu'on ne veut pas franchir ? Qu'est-ce qui, dans le travail, doit rester fondamentalement humain pour préserver notre humanité ?